Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise,
notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top.
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis, tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception?
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus pas grand,
hein? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Longtemps après, c'est encore le même conseil social, et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu as forcément touché, j'ai jamais tombé en panne de poste. C'est du temps que je connais pas. Vous devriez être quand même curieux, non? 100 fois, tu dis, jamais, jamais, je tombe en panne,
il faut que je sois tout le temps. Merde, merde,
avec un rêve du poil, avec un rêve du poil.
Aujourd'hui, mercredi 11 novembre, c'est la Saint-Cas-Contact. Saint-Cas-Contact est le saint patron de tous ceux qui, un jour, ont croisé sur leur route ce virus extrêmement contagieux, le fascisme. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il suffit, par exemple, d'avoir distraitement allumé une télé, d'être tombé sur une chaîne hautement contagieuse, d'avoir fixé son regard, même en ayant conservé une distance supérieure à 1 mètre, de manière juste, légèrement insistante, par inadvertance, d'avoir observé, par exemple, la figure hautement improbable de Manuel Valls, d'en avoir éprouvé une forme de curiosité malsaine, ben oui, après tout, on pensait qu'il était devenu avant-centre du Barça ou président du Guatemala, d'avoir laissé entrer dans son conduit auditif les propos virilement martelés par ce pantin boiteux du sionisme et de l'impérialisme occidental, et puis voilà, tu deviens 5 à contact, tu t'incarnes en 5 à contact, et après examen, les chances que tu sois canonisé sont optimales. Il suffit d'un moment d'inattention, d'un moment de faiblesse pour que, ému par un ton martial retentissant entre deux notes de la Marseillaise et par un drapeau tricolore flanqué de son double euro étoilé, derrière un bureau élyséen laissant entrevoir au second plan un ciel d'automne annonciateur d'orages civilisationnels et de grands remplacements, il suffit de l'un de ces moments pour entonner, en un chœur morose dirigé par le chef de ce funeste orchestre franchouillard, ce credo éternel et qui recèle l'identité profonde de la France, et donc du français, et donc de toi, pour chanter donc le tube du moment. Je suis Charlie! Et puis il y a toujours dans ces objets maléfiques qui distillent le virus empoisonné et qu'on nomme radio ou télé pour mieux tromper notre vigilance, le battage incessant, les offensives mortelles qui indiquent l'impasse où il faut se précipiter, le sens du vent que souffle une bourgeoisie inquiète. Et c'est les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et dans ce fatras théologico-raciste apparaissent des visions fiévreuses. Pascal Praud, Yvan Rioufol, Éric Zemmour, Anna Bauer, Robert Ménard, Jean Messia, Marion Maréchal, Elisabeth Lévy et combien d'autres encore. C'est ce qu'on appelle l'orage cytokinique qui entraîne un dérèglement prodigieux du système immunitaire. Clairement, là, 5 cas contact est positif. Te voilà rapidement entubé dans le lit du fascisme. Aujourd'hui, mercredi 11 novembre 2020, le soleil s'est levé. On avait déblayé boulevard des Capucines vers l'Olympia en ruine, j'ai vu quelques putains. Il s'est couché, mais l'ombre des désirs s'enfuit toujours plus loin vers l'inconnu. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la 5e journée du multi-décomplexe. C'est vrai que nous nous étions quittés sur un niveau de mer très élevé, mais nos champions sont de retour dès le mois de septembre, Philippe, avec un niveau encore plus élevé.
Oui Stéphane, et il ne faut pas oublier que même les plus jeunes joueurs vont devoir prouver qu'ils ont leur place dans leur équipe, car le merdcato n'est pas terminé.
C'est les premières minutes et ça bouge du côté de France Inter de Milan.
C'est principalement le séparatisme islamiste. Ce sont les groupes constitués qui s'organisent violemment donc, contre la République et en marge de la République. Et qui veulent...
Donc c'est une loi contre l'islam politique, ce que vous allez faire ?
C'est aussi une loi contre l'islam politique, mais pas uniquement. L'idée pour nous, c'est de viser l'ensemble des groupes qui s'organisent en marge de la République. Et à partir du moment où ces groupes considèrent que leurs règles internes sont supérieures aux lois de la République et ne respectent pas les valeurs de la République, il y a un problème et on doit pouvoir le régler.
Quel but de l'attaquant du FC, je sers à rien. Dès le début du quinquennat, j'avais senti le potentiel de merde. Et c'est vrai que match après match, elle confirme, malgré son jeune âge.
Oui, elle confirme, elle est encore jeune, mais elle a toutes les chances d'intégrer les plus grandes équipes de merde.
Ouh là là, ça bouge du côté du ASBFM.
Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, des actes de sauvagerie. Et oui, bien sûr, ça inquiète nos concitoyens.
Pourquoi est-ce que vous avez employé ce mot ensauvagement, qui est connoté, on le sait, connoté sauvageon Jean-Pierre Chevènement, connoté par les identitaires d'extrême droite? Pourquoi le mot ensauvagement?
On est dans un monde particulier où vous arrivez à mettre dans la même phrase Jean-Pierre Chevènement et les identitaires d'extrême droite. Moi, je souhaite que la France ressemble à celle de Jean-Pierre Chevènement pour combattre justement les identitaires d'extrême droite.
Ouh, but de sauvage, comme on dit dans le jargon. On reconnaît la patte du druide Jean-Pierre Chevènement. C'est vrai qu'il a formé les plus grands. On l'appelait le Giroud de la mer.
Oui, exactement. Et il formait tous les bons joueurs au CNFP. Hein, vous rappelez le Centre National des Fachos et Populistes.
Tout de suite, ça bouge du côté du Locomotive TMC.
Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais plus si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire les. On dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui, ça, mais c'est, elle progresse la société. Oui, le livre.
Vous parlez Agatha Christie,
oui,
d'accord.
Oui, on a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne.
Magnifique but! Magnifique! Du Johan Cruyff de la merde! Du Pelé, du populiste, du Maradona de je m'en bats les couilles!
Calmez-vous Stéphane, c'est vrai que c'est un grand joueur. 45 ans de carrière et il est encore là, dis donc.
On se souvient qu'il avait gagné le championnat 2007 grâce à des gestes de toute beauté, notamment la talonnette racaillette ou encore le coup du foulard Karcher.
Exactement, cette fabuleuse génération 2007, hein, on s'en rappelle, avec bien sûr donc, le Hongrois Sarkozy, l'Italien Claudio Gehan.
Oui, l'Espagnol Rico Bessin.
Oui, et surtout l'Allemand Franz Hortefeuer.
Voilà, le carré tragique des actions merveilleuses, vous pouvez retrouver sur notre chaîne partenaire pour retrouver la chaîne des goûts classiques racistes ESFN. ESPN, ESFN.
Oui, on a la vanne, bien sûr, merci Stéphane. Et je crois qu'un joueur a suivi les conseils de Sarkozy, on écoute.
On va au Parc des Princes. Alors il a dit singe ou pas singe?
Écoutez Stéphane.
Il y a singe.
Je sais pas.
Non mais c'est le ralenti singe. Y'a ça, puis des jeux.
Stéphane, ça joue à très peu, de choses. Il y a une lettre, peut-être singe ou alors linge, peut-être, je sais pas si.
Il aurait dit à Neymar, dis donc, je suis pas là pour faire ton linge.
Oui, peut-être que Neymar ne l'a pas ses slips. Hein.
Mais oui, La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
C'est le président du conseil de discipline, qu'est-ce qu'il fait là?
Oui, ben, je comprends pas Stéphane non plus.
Bon, ça se voit, il y croit pas.
Oui.
Il a le corps en arrière, il est penché quand il parle, on sait que ça va voler.
Voilà, du coup ça passe à côté.
Absolument. Faut laisser ça aux pros, hein. Vous savez pas faire. Merci, merci d'avoir suivi ce multi décomplexe 5. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle journée. Et vu le rythme, on se retrouve dans quelques jours.
Et des you-you, des foulards, des babouches, et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou, au secours, on est plus chez nous. Dans ma mairie, y'a des Fatma, et des you-you, des foulards, des babouches, et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou, au secours, on est plus chez nous.
Fiche, ma fille va épouser un morico. Notre coq crie you-you au lieu de cocorico. Elle s'est mise en tête de se convertir, rejoindre notre camp. J'aurais encore préféré que ce soit un mariage blanc. Mais je les vois, on dirait des gitans. L'argent des Alas transformé en or sur les cartons. Manquerait plus que le voyage de noces en Afghanistan.
Jamais sans ma fille.
Je souffre déjà de ce qui m'attend. Et quand ils dansent, on dirait une émeute.
Mais qu'est-ce que ta mère fait toi hein?
Qui fait baver la meute? Les pères ont les claquettes, les filles ont les baskets. Même avec le costard, la racaille met des casquettes. Ma fille s'appelle Marianne et je vis le drame.
Allah habibi yallah.
Ça plaît même à ma femme. Je suis déçu, moi qui pensais qu'ils étaient polygames. J'aurais peut-être pu présenter mes maîtresses à ma femme.
Dans ma mairie y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous. Dans ma mairie y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous.
Chers concitoyens, en vérité je vous le dis, dans ma mairie y'a les mariages blancs entre noirs et même entre gris d'ordinaire. Je les vois débarquer à 500, 20 hommes, 80 femmes et 400 enfants indisciplinés. Ils mettent la mairie sans dessous souk. C'est dans leur gène, c'est comme ça que voulez-vous. Et quand je dis un monsieur, qui peut embrasser la mariée?
Oh, devant tout le monde.
Ils sont bizarres, je vous jure, ils sont pas comme nous en plus. Ils sont pas discrets, c'est sûr, on est plus chez nous. C'est comme cette équipe de France, que des noirs et un boumoule. Ça écoute du rap et ça mange de la semoule. Mais quel droit, tu ramassacres la Marseillaise. Mais quel droit, ces voyous représentent la nation française. On est envahis par les indigènes de la bouche.
Si vous agitez le bruit des you-you et l'odeur des couscous.
Dans ma mairie y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous. Dans ma mairie y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous.
Des derbouka, des tam-tam et des marabouts, hey, ouais. Des grosses moustaches, des zoulous, des danses vaudou. Ça baragouine des charabiens, hey, ouais. Les lèvres, des tout point neuf, c'est hell et baisse. Faut les voir quand ils débarquent avec toute leur soumala. Avec toute leur marmaille, on se croirait à la casse-bas. Ils nous emmerdent, ils nous saoulent avec leur tradition. Leur code de la famille, leur rituel, leur religion. Je suis pas raciste, ouais, mais là y'a des limites, ah, oui. En France, monsieur, on a des règles de conduite. Il y a un siècle, ils étaient tous encore parqués dans des eaux. Et aujourd'hui, ils veulent nous piquer notre boulot. Ils veulent être ministre, étudier à sciences politiques. Et pourquoi pas devenir président de la République, ouais, ouais. C'est le monde à l'envers, y'a plus d'hierarchie, plus de respect. Ça veut même plus rien dire d'être un vrai français,
ouais. Dans ma mairie, y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous. Dans ma mairie, y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous. Dans ma mairie, y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous. Dans ma mairie, y'a des fatmas et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadou. Au secours, on est plus chez nous.
Suite aux propos du ministre de l'Intérieur, Amine a décidé de se confier aujourd'hui face caméra et nous parler de sa descente aux enfers. S'il a décidé de témoigner aujourd'hui, c'est qu'il est enfin guéri du communautarisme musulman.
C'était les supermarchés.
Alors moi, ça m'a toujours choqué d'entrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait, en arrivant, un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, le communautarisme. Voilà, je pense.
Vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé?
C'était en 2011. C'était un samedi. Donc j'allais faire mes courses au Leclerc-Vouzier, comme chaque semaine. Et ce jour-là, quand je me baladais dans les rayons, il y avait une animatrice. Et cette animatrice m'a interpellé, justement, pour déguster du bacalao. Donc je suis rentré dans le rayon portugais et je me suis fait embrigader et je me suis retrouvé face au rayon chinois et d'un coup d'un seul, je me retrouve face au rayon halal.
Et donc là, c'est le début du cauchemar en fait.
Ouais, totalement. Totalement parce que j'ai pris des cordons bleus, des saucissons, des tranches de dinde.
Halal ?
Oui, halal.
Et ensuite ?
Bah ensuite, c'est là qu'a commencé l'engrenage et la descente aux enfers. Au début, c'est un cordon bleu par jour, après c'est deux, puis trois. Je commençais même à boire du Selecto. Je me surprenais même à apprécier des musiques de DJ Hamida et à liker des pages de Monsieur Chalgoumi.
Chalgoumi ?
Ouais, Chalgoumi, ouais, c'est... Chalgoumi, c'est notre guide, mais je peux pas en dire plus.
Et qu'est-ce qu'en a pensé votre entourage ?
Bah, disons que... Mes parents, ils étaient abattus. Abattus parce qu'on dit souvent que ça n'arrive qu'aux autres, mais finalement, ça nous arrive à nous. Et mes parents, ils m'ont emmené chez le médecin et il m'a tout de suite diagnostiqué une musulmanie aiguë, échelon 2. Et voilà.
Et aujourd'hui, vous en voulez à cette animatrice de chez Leclerc ?
Oui. Ouais.
Vous pensez que c'est de sa faute ?
Clairement. C'est à cause d'elle que tout ça est arrivé au final. Je serais pas rentré dans ce rayon, j'aurais pas connu ce lavage de cerveau, cet engrenage. Par sa faute, j'ai connu l'enfer.
Vous avez entendu, comme tout le monde, M. Darmanin évoquait la dangerosité de ces rayons. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, vous savez, M. Darmanin est un visionnaire. Vous savez, on retient Jean-Paul Sartre, on retient Victor Hugo. Je pense que nos enfants retiendront M. Darmanin. C'est un peu l'Mbappé de la politique, quoi. Il a visé juste.
Est-ce que vous pensez qu'il devrait aller plus loin ?
Oui, je pense qu'il y a pas mal de rayons qu'on devrait éradiquer de la grande distribution. Je pense notamment au rayon discount. Le rayon discount, clairement, favorise la propagation des chômeurs extrémistes. Tout le monde le sait. Et ça, je pense qu'il va falloir s'attaquer au problème.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens ?
Bah, ce que je conseille aux gens maintenant, c'est de faire attention à qui ils parlent, à ces personnes qui lavent les cerveaux. Je pense notamment aux animateurs, aux animatrices dans les rayons. Donc de faire très attention, tout simplement.
Cette chanson s'adresse à tous mes amis du gouvernement de la République en marche. Putain les gars, les CRS qui butent des vieilles ou des mecs en fauteuil, vous leur filez des médailles. Les gosses qui vont dans la rue, oui, au lieu d'aller à l'école pour dire qu'on a trop chaud pour la saison, vous les foutez en tôle. Tous les ans vous commémorez ceux qui planquaient les juifs et puis là ceux qui planquent des nègres, vous leur bourrez le pif. Vous dites qu'il faut faire la chasse à ceux qui bossent pas, alors que putain leur boulot vous le vendez vous-même aux Chinois. Mais moi j'ai confiance, je sais que vous nous aimez. Je suis sûr qu'avec vous un jour tout peut s'arranger. Et si vous augmentez l'aide au logement pour les parlementaires, ça prouve bien que même pour eux la vie elle est de plus en plus chère. Non moi j'ai trop confiance. Par contre c'est vrai que les gars, dès qu'on vous donne un peu de pouvoir, vous allez même plus aux putes, vous vous enfilez des petits noirs. Pour une église un peu cramée, vous avez plus de chagrin que pour un bled qui se fait gazer. Au moins c'est sûr, vous êtes chrétien. Vous dites qu'il faut du glyphosate pour bien nourrir la populace. Mais du coup, résultat, quoi qu'on bouffe, on a la chiasse. Pareil que pour pas crever, il va falloir changer de système. Mais vu tous les hostos qui ferment, on va sûrement crever quand même.
mais moi j'ai confiance. C'est vous les meilleurs, notre bonheur est au cœur de vos priorités majeures. Et si là les CRS ils se mettent à casser du pompier, quelque part ils ont raison, y'a eu trop d'incendies cet été. Non moi j'ai confiance, nanana 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 nanana. Et tous ceux qui gueulent qu'on n'est plus en démocratie, eh ben ça sera de leur faute, si gueuler ça devient interdit.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Bien, nos auditeurs ont l'habitude depuis 10 ans maintenant, à cette période de l'année, en automne, d'entendre les reportages que nous effectuons à Manifiesta, la fête organisée par le journal Solidaire et par Médecine pour le Peuple, deux organisations liées au Parti du Travail de Belgique. Et puis, chaque année, lorsque nous y allons, nous avons notre moment central à nous, en quelque sorte, c'est l'interview du président du parti, Peter Mertens. Donc cette année, pas de Manifiesta, pour les raisons que vous imaginez, mais nous avons l'honneur et la chance d'avoir avec nous, en ligne, Peter Mertens, qui est auteur d'un ouvrage récent intitulé, en français, « Ils nous ont oubliés ». Peter, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un livre de confiné?
ce sont des temps assez bizarres, hein, parce qu'il y a une certaine normalité qu'on aime beaucoup de revoir, la normalité de voir les autres, la normalité d'être un être social. Ça, on veut revivre, je crois, tout le monde, parce qu'on n'est pas destiné à être confiné toute notre vie, hein, selon quelques forces capitalistes, oui, mais notre être humain aime bien les autres. De l'autre côté, la normalité capitaliste, la normalité des inégalités, ça, on ne veut pas revoir. Donc, il y a cette double tranche dans cette crise ici.
Mmh. Alors, j'ai lu quelque part, je pense que c'était dans un journal néerlandais, mais quelque chose qui aurait pu être le sous-titre, ou qui est peut-être le sous-titre, je ne sais pas, de cet ouvrage, c'est « L'avidité au temps du corona ».
Ça pourrait être le sous-titre. Le titre même, c'est « Ils nous ont oubliés ». Le mot le plus important, c'est « nous de classe », quoi, parce que on avait, pendant cette crise corona, et pendant la première vague, comme aujourd'hui dans la deuxième vague, que ce sont pas les bourses, que ce sont pas les actionnaires, que ce sont pas les banquiers qui font tourner la baraque, mais c'est bien la classe travailleuse qui fait tourner la société. Donc c'est bien les invisibles et les gens souvent mal payés qui font tourner tout ce système. Ça, on a vu. Et ils ont applaudi chaque soir dans presque tous les pays pour les héros de la crise, mais au niveau de salaire et au niveau de conditions de travail, ils n'ont pas amélioré. Et donc, dès l'été, dès qu'ils pouvaient, ils ont oublié les héros de la crise, donc la classe travailleuse. Donc ça, c'est le titre. Le sous-titre, effectivement, c'est que il y a l'autre côté, les forces capitalistes qui ont vu cette crise sanitaire comme un moment de profit, comme il voit presque toutes les crises, la crise climatique, la crise sanitaire aujourd'hui, la crise bancaire en 2008. Il voit toutes les crises comme des moments d'accélération pour changer les rapports de force dans la société, et ils le font de nouveau aujourd'hui.
Ce nous classe, est-ce qu'il a une chance d'inverser les choses, ou est-ce que ce nous de classe, est-ce qu'il n'est pas aussi aujourd'hui envahi par la peur?
Oui, je crois qu'il faut. Ouais, donc il n'y a rien qui vient automatiquement. Donc c'est pas parce qu'il y a crise qu'il y a conscience de classe. Donc effectivement, dans chaque crise, l'angoisse peut régner et n'est pas moteur. L'angoisse n'est pas un moteur pour des choses progressistes. Donc il faut. C'est pour ça qu'il faut articuler ce nous de classe, selon moi, parce que de l'autre côté, on a vu que des gens dans les soins de santé, mais aussi des chauffeurs de camions, des gens dans des magasins, le personnel qui fait le cleaning partout, ce là, pour la première fois dans leur vie, souvent, ils sont applaudis le soir pour ce qu'ils font. Parce que normalement, quelqu'un qui fait le crime, depuis des siècles dans notre société, elles ont vécu un regard méprisant de toute notre société. Et ici, dans cette crise sanitaire, soudainement, c'est clair que c'est, leur travail est important. Et donc, je crois qu'articuler que ce sont les héros qui ont fait tourner et qui font tourner la société est très important. Donc, c'est la première fois qu'il faut applaudir pour ce qu'ils font. Et donc, je crois que c'est important. Et donc, l'autre côté veut oublier le plus vite que possible toute cette, cette évidence, mais c'est à nous et c'est à tous les forces progressistes de le mettre en évidence, je crois. Et c'est partout la même chose, parce que les débats, ça c'est particulier aussi, que les débats sur le Covid-19, partout dans le monde sont les mêmes, sont exactement les mêmes. Donc le « nous » de classe, c'est aussi un « nous » internationaliste en plus, parce que en Inde, les gens qui font le cleaning des trains, par exemple, ils ont dû mener les mêmes luttes pour se protéger, pour se voir protéger, pour avoir des conditions de travail qui sont correctes pendant cette crise. Donc, c'est la même que les luttes des infirmières en New York, que les chauffeurs de camions en France, etc. Donc, il y a quelque chose international aussi à cette situation de pandémie.
On y vient justement parce que on a affaire à un virus, à une épidémie. Et les virus et les épidémies dans l'histoire, il y en a toujours eu. Et on nous le présente souvent cela comme des calamités, des fatalités, quelque chose contre lequel on peut rien faire. Est-ce que toi, Peter Mertens, et vous au PTB, est-ce que vous faites un lien entre l'apparition de ce virus, la façon dont il est traité, et le système capitaliste dans lequel nous vivons? Et si j'entends ce que tu as dit juste avant, qui est remis en cause objectivement par les gens, du fait de ce virus?
Oui, effectivement. Donc, je crois que c'est énorme que maintenant, surtout dans la première vague, on est de nouveau confronté avec ce virus et c'est de nouveau les travailleurs qui doivent payer cette crise et payer cette fois-ci pas seulement avec leur salaire, mais surtout aussi avec leur santé et la peur des gens qui doivent continuer à travailler physiquement. Ça continue. Et pendant la première vague, on pourrait encore dire bon, c'est nouveau pour tout le monde. Bon, on peut en discuter, mais pas six ou sept fois après. Donc, on a averti pour cette deuxième vague partout et on n'a pas pris des mesures sérieuses, surtout pas en Europe et surtout pas aux États-Unis. Et si on voit aujourd'hui, par exemple, la différence entre l'approche en Chine et aux États-Unis ou en Europe, on voit les chiffres qui sont énormément différents, les chiffres sanitaires qui sont beaucoup plus graves et dramatiques en Europe et aux États-Unis, mais aussi les chiffres économiques. Hein. Donc en Chine, pour le moment, parce qu'ils ont une autre approche vers le virus, l'économie peut redémarrer en Europe et aux États-Unis. Ce n'est pas le cas du tout. Et donc, Dès le début, en Europe et aux États-Unis, ils ont dit, bon, c'est le marché qui va résoudre toutes les questions sanitaires. On a vu dans chaque étape que c'est pas du tout vrai, ni au niveau des matériels de protection, ni au niveau de l'organisation de testing et de l'organisation de tout notre système sanitaire. On a attendu, mais le marché a créé le chaos et le marché a encore renforcé les forces qui ont pris le plus de profit de cette crise-là. Donc, le marché n'a pas amélioré la situation, bien au contraire. Et on a vu en Chine, mais aussi dans d'autres pays en Asie, par exemple en Inde, dans la province de Kerala, donc où ils ont une autre approche.
Oui, c'est un gouvernement communiste, on peut le dire.
Oui, c'est ça. Et donc, ils ont une première ligne qui est forte. Ils ont des femmes au niveau de soins de santé qui font des visites à domicile, qui connaissent tout le monde. Ils ont une protection sociale qui est renforcée. Et dès le moment qu'il y a que le virus apparaît, ils ont une politique assez drastique de d'isoler des gens qui sont atteints avec le virus, parce qu'eux, ils veulent vraiment gagner sur le virus. Donc, leur politique, c'est de faire que le virus n'influence pas, ne gagne pas. Donc, ils veulent battre vraiment le virus. Et ici, en Europe et aux États-Unis, c'est pas du tout la politique. La politique, c'est soi-disant assurer que le système soit en santé et les hôpitaux ne sont pas débordés. C'est la politique officielle que c'est. On fait comme sorte que les hôpitaux ne sont pas débordés. Mais même ça, leur politique officielle, ils ne réussissent pas à le faire parce qu'ils ne veulent pas faire une politique proche des gens, une politique avec une première ligne au niveau de soins de santé qui est élaborée, une politique qui est planifiée, une politique qui est hors de pharma, de big pharma, etc. Ils ne font pas. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on est confronté avec une deuxième vague et on n'est de nouveau pas préparé du tout. Et donc, puisqu'ils n'ont pas pris des mesures assez drastiques pendant les premiers six mois, maintenant, ils se doivent prendre des mesures drastiques pour tout le monde, le couvre-feu, etc. etc. Ces mesures drastiques de couvre-feu et d'isolement renforcé de toute la société, c'est la faillite, c'est la preuve de faillite donc de leur approche. En Chine, de nouveau, on peut faire des fêtes, on peut faire des visites famille, parce qu'ils ont suivi une autre approche. En Inde, en Kerala, on peut faire du sport ensemble, on peut faire des mouvements de jeunes, des camps de mouvements de jeunes, les écoles sont de nouveau ouvertes. Ils ont suivi toute une autre approche, mais les médias occidentaux, ils ne disent presque rien sur le, c'est aussi l'eurocentrisme. Et c'est pas selon moi qui le dit, je cite dans le livre Richard Horton, qui est le rédacteur en chef de The Lancet. Donc The Lancet, c'est le journal médical britannique renommé, le journal le plus important. Donc le rédacteur en chef, lui, il dit, par eurochauvinisme et par anticommunisme primaire vis-à-vis de la Chine, les pays de l'Europe ont perdu des mois et donc ça a coûté des milliers de morts. C'est pas mes mots, ce sont les mots du rédacteur en chef de l'Inset. Et ça continue, je trouve.
J'allais te poser une question, mais je pense que tu as déjà répondu. J'allais dire, est-ce que dans la gestion de la crise en Belgique, on pouvait noter des différences par rapport à la France ? Je pense que tu suis un petit peu ce qui se passe chez nous. Je pense que la question, tu y as déjà répondu. Hein. Macron nous disait au mois de mars que plus jamais ça, nous allions donner des moyens aux hôpitaux, renforcer l'hôpital public. Et six mois après, on voit que non seulement rien n'a été fait, mais qu'on a été jusqu'à fermer des lits encore pendant cet espace de six mois. En Belgique, j'imagine qu'on a la même anarchie capitaliste.
Ouais, donc dès le moment que ça brûle, ils sont tous en train de crier qu'ils vont éteindre le feu et ils sont tous en train de promettre n'importe quoi au moment que ça brûle. Mais dès le moment que le feu est un petit peu plus calme, ils ont oublié déjà tout. Et donc ça, ils nous ont oublié, c'est aussi, ils ont oublié toutes leurs promesses. Et ils le font toujours. C'est partout en Europe, c'est en Italie, c'est en France, c'est en Espagne, c'est en Belgique. Ils ont promis pendant les vacances de juillet et août, partout, des millions d'euros au niveau des hôpitaux. Ils ont, et ça aussi, je le décris dans le livre, ça a deux côtés, parce que de l'un côté, ils avaient réellement peur, parce que cette colère en juin des blouses blanches partout en Europe, donc du personnel soignant en Europe, mais aussi en Mexique, en Inde, parce que partout dans le monde, il y avait une force. Le « nous » était le locomotive du « nous » de la classe ouvrière. C'était les blouses blanches, le personnel de soins de santé. Et donc, ils ont fait la lutte. Et vis-à-vis de cette lutte-là, il y avait une peur réelle. Et ils ont répondu cette peur par les promesses d'investir des milliards d'euros partout dans les hôpitaux. Mais maintenant, effectivement, six mois plus tard ou trois mois plus tard, ils n'ont pas réalisé, donc ils ont fait les promesses, mais le renfort réel au niveau des hôpitaux, voir qu'il y a beaucoup, qu'il y qui avait un plan spécial pour en août septembre avoir des jeunes pour les atteindre et les apprendre de suivre des cours spéciaux et rapides pour aider les hôpitaux. Ils n'ont pas fait. Et c'est partout maintenant, en Italie, en France, en Belgique, et même en Allemagne, où la situation est moins pire parce qu'il y a encore une première ligne qui est beaucoup plus élaborée. Mais même en Allemagne, donc il y a trop peu de mains au niveau des soins du personnel. Et donc, effectivement, ils ont fermé des lits. Et de nouveau, ils sont en train de discuter. Est-ce qu'on doit demander aux Chinois et aux Cubains de venir nous aider? Mais bon, si on avait eu la même, cette même interview il y a un an, et qu'on se disait en 2019 et en 2020, on était en train de discuter en Belgique, en France, en Italie, est-ce qu'on va demander l'aide à Cuba? Tout le monde allait dire, allez, les communistes, ils sont quand même un peu trop forts, quoi. Mais c'est la situation. En Belgique, on le discute pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais la situation est dramatique. Les autres, maintenant, la Belgique, c'est la Lombardie. Hein. Donc, c'est surtout du côté de Liège, Charleroi, Bruxelles, mais ça va venir aussi au nord. Donc, les hôpitaux sont débordés et bon. On est de nouveau à une étape où il craint de devoir des choix de soins intensifs. Est-ce qu'on va aider des personnes atteintes avec le Covid-19 ou est-ce qu'on va aider des personnes qui sont atteintes avec une crise cardiaque? Mais ils sont déjà à ce niveau de nouveau où ils doivent choisir qui on va traiter. C'était la situation de l'Italie en début mars. Ils avaient promis qu'ils n'allaient pas être là, et maintenant on est début novembre, on est là.
Oui, c'est vraiment.
Et c'est à craindre qu'il y a encore d'autres pays qui vont se voir, que ça ne va pas seulement être le cas en Belgique, qui est un pays riche d'ailleurs, et c'est pas un pays.
Levé 8h, puis c'est biscotte. Une tasse de thé et de la confiote. Les petites gouttées, les 5 pilules. Le sirop, la piqûre et les gélules. Ça sert à rien, je leur ai dit et redit. Qui ferait mieux de me donner du whisky? Pour le temps qui me reste, franchement. Mais oui, je sais le règlement. Mes gosses m'ont dit en mettant là que je serais bien qu'on prendrait soin de moi. Il paie bonbon, ça doit déculpabiliser de m'avoir mis dans un mouroir en attendant de crever. Moi je leur ai torché le cul à tous et maintenant ça les dégoûte de me changer un pansement. Si j'avais su, j'aurais plutôt pris des chats, mais leur mère était allergique, alors voilà. Chambre 26, celle qui sent la pisse. Enfin, ici, ça sent la pisse dans tous les coins. Les vieux, ça se retient pas bien. Chambre 26, celle qui sent la pisse. Enfin, ici, ça sent la pisse dans tous les coins. Les vieux, ça se retient pas bien. Ils viennent me voir à Noël avec leurs gamins. Entre nous, je m'en passerai bien. Si c'est pour voir leur gueule de con, je préfère encore les soirées Scrabble dans la chambre à Marie-Laure. C'est pas une première fraîcheur, vous vous en doutez. Et elle non plus, lui reste pas longtemps à tirer. Mais je ferme les yeux et j'imagine que c'est Claire Chazal. Et puis, elle est gentille et elle donne du mal. Dans sexagénaire, il y a sexe, mais entre nous, je sais pas si c'est vraiment du sexe qu'on fait nous. Les perfusions et le déambulateur, ça laisse pas beaucoup de place à nos ardeurs. Y'a bien la petite infirmière du soir qui rit quand je lui demande d'ouvrir que je puisse y voir. Elle croit que je peux plus pisser seule, mais c'est pas vrai. Et j'allais pas rater une occasion de me faire toucher. Chambre 26, celle qui sent la pisse. Enfin, ici, ça sent la pisse dans tous les coins. Les vieux, ça se retient pas bien. Chambre 26, celle qui sent la pisse. Enfin, ici, ça sent la pisse dans tous les coins. Les vieux, ça se retient pas bien. Parfois, pour les anniversaires, y a une fête. Sont même organisés un jour un bal musette. 80 vieux qui dansent en fauteuil roulant. J'ai mis 2 heures à retrouver mes dents. Ils se donnent du mal, ils sont payés pour ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste crever tranquille et basta. Un whisky, une clope, les nichons de l'infirmière. Juste ça, et moi je pars heureux au cimetière. On me dit, t'es vieux, t'es jamais content, t'es bougon. Je suis pas bougon, je pense juste que les gens c'est des cons. Et quand t'es vieux, t'as plus le temps, t'as plus la force de faire semblant. Chambre 26, celle qui sent la pisse. Enfin, ici, ça sent la pisse dans tous les coins. Les vieux, ça se retient pas bien. Chambre 26, celle qui sent la pisse. Enfin, ici, ça sent la pisse dans tous les coins. Les vieux, ça se retient pas bien.
Je rappelle qu'on a avec Peter Mertens, le président du Parti du Travail de Belgique, mais aussi un auteur de best-seller, eh oui, parce que chacun de ses ouvrages attire beaucoup l'attention des lecteurs belges, en tout cas, hein, et parfois français aussi, hein, il faut le dire, mais en tout cas belges. Et j'ai lu quelque part, il y a quelques semaines déjà, que cet ouvrage, qui est d'abord paru en néerlandais, qui est ta langue maternelle, Peter, cet ouvrage était en tête des ventes au nord du pays, dans les Flandres, qui est une contrée qui est quand même un peu travaillée, même pas un peu, mais beaucoup travaillée par l'extrême droite. Le fait que ça soit très lu dans ton pays, les Flandres, est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant pour toi?
Oui, effectivement, si je m'écris, si je m'écris des livres, c'est bien que les gens le lisent, c'est bien que les gens le lisent. Mais c'est un travail collectif, donc, parce qu'on a travaillé avec 40 personnes à ce livre. C'est un livre qui n'est pas trop grand. Je suis très content que le livre est accessible parce que, trois quarts du temps est investi, dans la recherche, pour les chiffres, les données, etc., les interviews pour le livre, et un quart de temps est investi pour rendre accessible. Et donc, j'aime bien que les gens qui me disent, je ne lis presque jamais des livres, que eux aussi ont lu ce livre et le comprennent. Donc, la démocratisation de l'écriture, je trouve ça moi-même très important que les gens puissent lire. Et je crois pour l'autre chose que juste au moment d'une crise, les gens se posent beaucoup de questions. Donc, il y a le confinement et pourquoi on est arrivé à une situation où on doit choisir entre notre santé, notre revenu et notre famille. Donc on est là presque partout en Europe où on doit choisir, parce que les témoignages des gens aussi dans cette deuxième vague qui se disent « j'aimerais bien rester à la maison, mais je ne peux pas me permettre, j'ai peur d'aller travailler, mais je dois aller travailler parce que je dois avoir le revenu. » Et donc, il y a énormément de nouveau de témoignages de gens qui disent « Bon, je tousse un petit peu ou j'ai un petit peu de fièvre, mais je ne vais pas le dire parce que je ne peux pas me permettre. » Et donc, cette situation, les gens doivent choisir entre revenu et santé et famille. Bon, c'est la situation où le capitalisme a mis énormément de travailleurs et de travailleuses dedans et de gens normal de nous. Et ça, c'est pas normal, parce que si on a pris cette crise d'une autre manière, on ne devait pas avoir cette choix-ci. Et cette choix-ci, c'est le choix qui est surtout parmi la classe travailleuse, hein, parce que au sommet de la société, les gens ne doivent pas faire c'est le même choix. Donc, bon, je l'appelle aussi un virus de classe. au début, du côté néerlandophone, il y avait eu beaucoup de débats dans les médias parce qu'ils disaient, allez, c'est quand même un virus, c'est quand même un virus démocratique. Tout le monde
était
un peu touché par ce virus. Et ils trouvaient ça super exagéré que j'ai nommé ça un virus de classe, mais effectivement, théoriquement, tout le monde peut être touché, hein, donc même Trump et Bolsonaro peuvent être touchés. Théoriquement, c'est vrai, mais dans la pratique, ça a touché beaucoup plus les chauffeurs taxi, les gens qui sont dans le bâtiment, il y a des chiffres qui sont publiés en Angleterre où on a dit que pendant la première vague, la surmortalité, c'est surtout les chauffeurs de taxi, chauffeurs de bus, les gens qui travaillent dans la construction, etc. Donc les gens souvent mal payés, donc la classe travailleuse qui a vraiment été touchée le plus, aussi au niveau des quartiers populaires. Donc dans des quartiers populaires, presque partout dans les grandes villes en Europe, les gens sont beaucoup plus touchés par le virus que dans des quartiers chics. Et c'est normal, c'est presque chaque virus, aussi la peste ou la pandémie soi-disant espagnole, donc la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale, a touché aussi de nouveau beaucoup plus la classe ouvrière et la classe travailleuse. Donc c'est un virus de classe et la solution sera une solution de classe ou ce ne sera pas une solution du tout.
Alors, à propos de solutions de classe, je rappelle que tu es président du Parti du Travail de Belgique. J'ai aussi lu certains sondages assez récents également qui montrent encore une fois une nouvelle percée de ce parti au nord comme au sud du pays. C'est encourageant. Qu'est-ce que vous avez comme perspective?
Oui, c'est en soi encourageant, mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire, donc les sondages ne changent en soi rien du tout. Ce qui est encourageant, qu'il y a un potentiel pour changer des rapports de force. Ce qui compte finalement, ce ne sont pas les sondages, mais c'est les rapports de force. Et on a vu une agressivité énorme au niveau patronal, je crois, aussi partout en Europe, parce que le patron avait utilisé la situation actuelle pour changer des rapports de force sur le lieu de travail aussi, au niveau de syndicats, au niveau de conditions de travail. Donc il existe par exemple des flexibilités en plus des heures supplémentaires, pas payées supplémentaires de plus, etc. C'est partout en Europe, donc je crois qu'effectivement, la classe travailleuse, dans le sens large, a besoin des partis moteurs, des partis de classe pour avoir leur revendication sur stable, parce que l'agressivité patronale continue.
Alors, je rappelle donc l'ouvrage dont on parle, on va conclure, intitulé « Ils nous ont oubliés ». Est paru donc en français récemment. Il fait aussi de bons scores, je dirais, beaucoup de lecteurs aussi dans la partie sud du pays, donc chez les francophones. Nous, on va proposer à nos auditeurs de se rapprocher de nous s'ils le veulent en nous écrivant à l'adresse hdmcampus@yahoo.fr afin que on puisse leur dire où ils peuvent trouver le livre, parce que je pense pas que ça soit dans les librairies françaises, mais on a les contacts de camarades du PTB francophones. Peter, en faisant cet entretien, je me suis aperçu que le point commun qu'il y avait entre toi et ton parti, et c'est normal qu'il y ait un point commun entre toi et ton parti, c'est que dans ton propos, tu pars toujours d'en bas, et tu ramènes toujours vers les gens d'en bas. Tu nous as parlé de chauffeurs de taxi, de bâtiments, de cleaning, donc de femmes de ménage. Et ça me semble important quand même, ça me semble être au cœur de la démarche du PTB. Évidemment, nous, on la regarde avec de l'intérêt, puisque c'est quand même pas fréquent, les pays occidentaux, où des partis communistes grimpent, élection après élection, et ont de l'influence. C'est peut-être que la recette, elle est toute simple, c'est d'être vraiment à l'écoute des gens d'en bas, non? Tout simplement, mais ça paraît tellement simple.
Oui, effectivement, ça paraît très simple, mais c'est cardinal. C'est cardinal, effectivement, pour pouvoir progresser. Et tout le système politique est construit pour arriver au contraire. Donc, dès le moment que on entre dans une situation de la politique professionnelle, on entre dans un autre monde, tout le monde politique littéralement est construit pour une autre classe. C'est une réalité. Et tous les mécanismes, les grands mécanismes, mais aussi les très petits mécanismes au niveau des salaires, au niveau des privilèges, des petits privilèges pour des gens qui sont élus localement, supralocalement, nationalement. Donc, tout le système politique est vraiment construit pour une autre classe. Et dès le moment qu'on entre avec une partie de classe dans ce jeu-là, pour changer le rapport de force, on doit être conscient de ça. On doit être conscient que si on n'est pas conscient, on est mangé par le système. Le système n'est pas con non plus. Le système est assez raffiné. Non, le système est assez raffiné pour intégrer.
Ouais.
Donc, parce que la première démarche du capitalisme, c'est d'intégrer toute la politique de classe, d'intégrer tout ça dans le système. Mmh. Et la première ligne de défense de ça, c'est de rester humble, c'est de rester sur terre et avec des principes et aussi avec des avec des règles. Et donc, nous, on vit comme on pense. Donc, on vit avec un salaire de travailleur, de reste pour le parti, pour le fonctionnement d'un parti de classe. Et c'est pour moi, c'est important, parce que dès le moment qu'on oublie ça, on va penser comme on vit au lieu de vivre comme on pense.
Bravo. Bon, écoute, Peter, on touche du bois. On se dit à bientôt. Tot ziens.
Oui, okay.
À Manifiesta, on espère, en septembre prochain. On ne sait pas encore, bien sûr.
Oui,
mais...
on espère. Merci beaucoup à vous. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui. Et, oui, c'est ça. Allez, à très bientôt alors. Merci.
À très bientôt. Merci à ça.
Merci Peter.
Ciao. Ouais.
Quando era piccolino papà, tutta la gente onesta e timorata, con lui non ci volevo parlare, e se ne allontanava schifata. Papà non era brutto però, studiava tra i borghesi più in vista, quello ero culero perché papà era un convinto comunista.
Sono passati 30 anni e più, e oggi pure un nulla tenente, non è più comunista perché non è più moda, non è più trend, ma il trend l'informazione lo fa, e siamo tutti quanti borghesi, borghesi un po' come perché ci piace a buscar fino romesa.
Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo moda.
Totalmente fuori moda, totalmente comunista.
E ballo
io.
Sono comunista totalmente fuori moda. Sono comunista perché sto lungo moda.
Totalmente fuori moda, totalmente comunista.
E ballo
io. Si tiene 60 anni e tu mo te ne vorresti andare in pensione. Inventati un suicidio chic e butta giù anche tu l'inflazione. E poi c'è la flessibilità, la nuova moda a tutti ormai nota, che ci divide tutti a metà, chi muore fame e chi va in Europa.
Se non ti senti bene occhio al trend, non andrai mica all'ospedale a gravare un doppio spalle la gente.
A loro verrà tutto mo fa male.
Sì sì, disoccupato no trend, è meglio piccolo imprenditore, con partiti nati vengo wind.
E manca sorda per l'ascensore.
E manca sorda per l'ascensore. Manca sorda per l'ascensore.
Io sono comunista totalmente fuori moda.
Sono comunista perché sto lungo moda.
Totalmente fuori moda, totalmente comunista.
E ballo
io. Sono comunista totalmente fuori moda.
Sono comunista perché sto lungo moda.
Totalmente fuori moda, totalmente comunista.
Talmente comunista.
E ballo
io.
Sono comunista.
Radio Campus.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!
106,6.
Claudia Salernan, c'est l'ambassadrice de la République bolivarienne de Venezuela auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne.
Normalement, on parle beaucoup du rôle des États-Unis dans les différentes manifestations des changements de régime qu'on a vus tout au long de notre histoire comme peuple latino-américain, mais aussi ailleurs, et aussi dans des différentes régions. Mais en fait, très peu on parle du rôle de l'Union européenne et en particulier du Parlement européen à travers ce qui a été créé après le traité de Lisbonne comme le rôle du Parlement pour déclencher des sanctions spécifiques et en conséquence des décisions qui puissent forcer le Conseil à travers cette conformation qui s'est construite à partir du traité de Lisbonne, qui est encore spécifique, dédiée à la politique commune de sécurité et de défense. Même qu'au moment où l'Union européenne a décidé de se donner un organe pour administrer les relations extérieures, ça donnait un organe aussi dont tous les pays sont représentés, tous les pays européens sont représentés au niveau des ambassadeurs, spécialement détachés pour se charger de ce qui s'appelle la politique commune en sécurité et défense. Et donc, d'un côté du corps, ils ont le pouvoir d'administrer la paix. Et si ça ne marche pas, dans un bâtiment très près, ils ont la possibilité de déclencher des guerres. Et dans un bâtiment qui est aussi très près, ils ont l'OTAN. Donc Bruxelles a le pouvoir, même avec sa modestie, de faire partie d'une des villes qui ont le pouvoir de la paix et de la guerre dans un territoire assez petit. Donc pour ce qui est le rôle de l'Union européenne, qui est très experte en jouer le rôle de policier bon, donc le bon de jeu, et qui sont ceux qui sont toujours des côtés des bonnes choses, à la défense des principes. Je vais vous donner juste un exemple qui est assez récent et qui est assez bouleversant, ce qui a été l'histoire de la Libye. Et la forme comme et dont l'Union européenne a profité de toutes les ressources qu'elle s'adonnait à partir de 2010 pour déclencher contre ces pays une misère d'intervention que maintenant touche encore les ports, toute la vie humaine dans ces pays. Ce n'est pas seulement un changement de régime, les changements de régime viennent accompagnés de beaucoup de morts et des gens qui souffrent beaucoup, et qui jusqu'à cette date sont en train encore de chercher les côtes des pays qui les ont attaqués avant pour essayer de chercher dans les mêmes qui ont déclenché la guerre chez eux un peu de paix, et en trouvant plusieurs fois que la mort et dans les meilleurs des cas un camp de réfugiés qui vraiment ça ferait la honte même à la très controversée histoire de l'Union européenne ou de certains pays de l'Union européenne dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est bien de jouer le bon, mais il ne faut pas le croire tout le temps et il faut aller plus loin. L'intervention en Libye a déclenché dans toute cette histoire qu'on connaît bien et qu'on souffre et que ces peuples souffrent encore. Mais en particulier, en moins de 3 mois, dans la même année de 2011, a permis à l'Union européenne, à travers la conférence de Paris, qui a eu lieu le 1er septembre, de saisir par une voie très illégale tous les moyens économiques que la Libye avait en tant qu'actif de ses peuples et qui ont été soustraits par les pays européens, sans aucun honte. Ces mêmes ressources ont servi et devraient servir à aider la soi-dite reconstruction de la Libye Et donc, ça a clairement servi à créer des business autour d'une reconstruction, d'une destruction qui a été créée par les mêmes pays qui est maintenant venu offrir les entreprises qui étaient prêtes à reconstruire et à rebâtir les bâtiments. Donc, c'est là la boucle. Les guerres ne sont jamais sans une pression économique. Pour ce qui est le Venezuela en particulier et les sanctions, et pour ce qui est les jeux des bons des Européens, je vais vous faire revenir à certaines informations pour que vous pouvez voir clairement où sont les intérêts et les vrais intérêts qui sont en dispute maintenant. Vous savez que avec l'aide de l'administration américaine et un monsieur qui s'appelle Juan Guaido, un député c'est le cinquième un représentant de cinquième parti politique dans l'Assemblée nationale, donc avec une participation de 13 députés dans une assemblée de 556. C'est un parti politique, celui de M. Guaido, qui détient maintenant 13 sièges, 13, 1, 3. Et ils se sont sentis, et par le fait d'avoir le soutien américain avec la force et la capacité de se proclamer autoproclamer président de la République dans une place et au milieu d'une foule. Et comme ça, les Américains et certains pays européens lui ont donné sa bénédiction et donc sa reconnaissance. Et en tant que président intérim, que c'est une figure qui n'existe pas dans la constitution vénézuélienne. Et une fois que ça a été fait, ça c'était, vous connaissiez le visage de Guaido qui visite le Parlement européen et qui s'y remballe partout les médias en train de communiquer qu'il vit dans une dictature et avec toutes les ressources et les moyens pour traverser le monde avec son message. Le fait est que avec l'administration soit dit Guaido, donc ses représentants, ils sont arrivés à négocier avec les Américains la vente illégale des biens vénézuéliens qui étaient surtout placés en territoire américain, mais pas exclusivement. Il y avait certains qui étaient dans le territoire ailleurs. Et les ventes illégales peuvent cumuler plus de 24 000 millions de dollars qui ont été empochés par l'administration Guaido. Et suite à ça, et accompagnant les sanctions américaines, les sanctions économiques américaines, c'est faux le discours que dit que les sanctions européennes ne touchent pas à l'argent et qu'ils ne sont pas économiques, mais qu'ils sont exclusivement symboliques et qui touchent certains cadres de l'administration et de président Maduro. C'est faux. En ce moment, le Venezuela et donc son peuple qui souffre comme tous les autres de toutes les conséquences maintenant accrues par la pandémie. Et sur le territoire européen, l'Europe détient maintenant plus de 5 000 millions de dollars qui ont été illégalement confisqués et donc refroidis dans les comptes qui sont placés en Portugal, Novo Banco, à la Banque d'Angleterre, à Clearstream de London, donc une sécurité de dette, à Sumitomo aux États-Unis, Citibank, à Union Bank aux États-Unis, mais aussi à très très près d'ici à Euroclear, qui est aussi une assurance de dette qui son siège se trouve en Belgique, à Bruxelles. Aussi à Bruxelles, en Belgique, on a la banque Eni qui détient aussi de l'argent des Vénézuéliens, de l'UBAC en France et autres 41 banques européennes qui détient environ plus et presque 700 millions de dollars qui appartiennent au peuple vénézuélien. Une fois la chose dite, c'est clair que les changements de régime viennent toujours accompagnés d'une décision de décongélation d'actifs et donc d'empochement d'argent d'autrui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le dit. Et on a des exemples assez récents, comme je viens de confirmer. D'autant plus que, bah, pour ce qui est des élections, donc, le Venezuela a clairement dit à l'Europe qu'on n'allait pas arrêter nos processus démocratiques constitutionnels de fait de leur vouloir de gérer nos élections, nos temps et même la participation de qui devrait et pas être dans un certain processus électoral. Il y a certains pays de l'Union européenne qui ont arrivé au point de dire que la opposition pour eux, c'était seulement l'opposition avec M. Guaido et pas sans lui. Et imaginez-vous qu'est-ce qui ferait une déclaration pareille si ça s'adressait à n'importe quel pays européen en train de mener ses élections souveraines. D'autant dire que les processus internes des formations des gouvernements, même avec la participation de l'opposition, ça ne peut pas être réglé par nul qui ne soit pas national de ces pays. En disant ça, le gouvernement de Venezuela et le président Maduro ont insisté en avoir la meilleure relation avec l'Union européenne, la meilleure relation avec les Américains, mais partant sur la base de respect mutuel et de la compréhension qu'on n'allait pas raccourcir ou réinterpréter notre constitution pour plaire à la volonté des Européens, vu que ça nous a coûté beaucoup de sang et plus de 200 ans d'histoire d'arriver où nous sommes, où maintenant on peut dire qu'on est une république indépendante. Donc, pas de pas arrière par rapport à notre indépendance qui a été bien acquise et claire et nette. Mais il semblerait que certains pays ne l'ont pas compris assez, même 200 ans après. Donc, l'invitation et l'attendu de la main de la part de l'administration de président Maduro a été faite pas une, mais trois fois, au moins de 2 ans, pour inviter l'Union européenne à participer directement des élections et avec ses propres yeux et ses experts de participer de près en tant que témoin, accompagnant, observateur de ces processus électoraux et d'autres. Et finalement, on a eu, il y a quelques semaines, une réponse de l'administration de Borrell, parce qu'il y a eu aussi un changement de pouvoir dans les institutions européennes. Et il a dit que l'argument principal est que l'Union européenne aurait besoin d'au moins 3 ou 6 mois pour arranger une délégation officielle d'observation électorale et disant ça, ils ont demandé au gouvernement et aux partis de l'opposition démocratique qui veut participer aux élections de 6 décembre de décaler l'élection. Ils n'ont pas utilisé l'argument de Covid, vu que la France a été très têtue et en train de mener des élections dans des moments où il y avait les pandémies au pic. Et aussi dans la première vague que dans la deuxième. Donc, ça aurait été très difficile pour l'Union européenne d'argumenter le fait de Covid pour demander le décalement, mais ils ont utilisé l'argument de temps et ils ont utilisé deux frames temporels. D'abord, ils ont dit 3-6 mois. Donc, je vais vous faire connaître et je peux le tenir publiquement et à n'importe quel moment. La première invitation formelle du gouvernement vénézuélien aux institutions européennes et à l'Union européenne formellement et a été donnée au cabinet de M. Borrell a été faite le 21 juillet 2020 et on a insisté le 1er septembre 2020. Avec 2 lettres formellement transmises, duquel on a les preuves. Donc, les 3 et les 6 mois ont été bien accomplis. Donc, Maintenant, il reste à savoir quelle va être la position de l'Union européenne après les élections, parce qu'une seule chose, on a clair. Venezuela ira aux élections le 6 décembre. On a l'incertitude que ça va se passer avec le civisme et la paix qu'on a connu dans des processus avant. Et les seuls moments où il a eu des disruptions des ententes démocratiques a été les moments où l'opposition radicale et pas démocratique ont appelé aux méconnaissances des résultats électoraux. À part ça, le Venezuela est un pays de paix qui a une large habitude des processus et qui maintenant a commencé cette semaine même qu'on parle la campagne électorale. Donc c'est un peuple qui est en train de vivre une fête électorale, même avec les circonstances actuelles de la pandémie qui font bien sûr que cette fête électorale doit être très surveillée et avec des conditions particulières. Mais les gens veulent absolument changer cette Assemblée nationale qui est depuis 5 années. Le jour 1 de sa prise de position, on dit que leur seul but, c'était de renverser le gouvernement de Nicolas Maduro. Je ne connais aucune Assemblée, nulle part dans le monde, aucun congrès, qui puisse permettre au président de dire que son seul but était de renverser un gouvernement démocratiquement élu. Donc, je vous dis ça juste pour mettre en perspective comment et combien ces peuples saccagés par des sanctions et un blocus économique et financier qui est affreux et qui vraiment fait des dégâts qui peuvent être comparés à des 5 ans sans aucune doute à une transgression, une violation flagrante des droits humains de la population vénézuélienne. Nous, on continue en étant un peuple de paix et on marche ensemble vers des élections et vers l'assomption, bien sûr, des résultats, quoi que ce soit que le peuple décide avoir comme nouvelle Assemblée nationale, car c'est un pays qui a besoin absolument qu'on gère et légalise toutes les situations qui sont en train de se passer et qui ont besoin vraiment de gestion politique d'auteur. Donc, il y a des candidats des deux partis et on verra bien qu'est-ce qui se passe. Mais notre invitation, c'est toujours à l'Union européenne de reconsidérer sa position. Maintenant qu'il va y avoir des changements aux États-Unis, peut-être ils se sentiront plus libres d'avoir sa propre voix et de s'inclure dans le processus vénézuélien avec une attitude plus constructive et surtout pour tout ce qu'il y a à futur comme potentiel de relation entre les deux. Et étant donné que bientôt il y aura aussi des élections municipales une autre fois, il y aura aussi à un moment des élections présidentielles quand ça sera le moment venu. Donc le président a dit, bon, si l'Union européenne ne peut pas venir pour cette élection-ci, l'invitation, maintenant, on ne va plus envoyer des lettres, l'invitation reste ouverte en permanence pour que vous accompagniez n'importe quel processus d'ici au-delà et vraiment de construire une relation plus positive, plus constructive avec l'Union européenne, et moi je m'y tiens vraiment à croire que c'est possible, une fois sachant où sont nos limites et les lignes rouges. On ne va pas donner notre indépendance, on ne va pas négocier notre souveraineté et on ne va pas négocier notre constitution nationale.
Bruta come un diamante in un chiquero. Chi va a tirarte la ultima piel?
Independientemente renace, se extiende. Pasado es una costilla. Pasado es la esclavitud por la vida. Pasado es estar en la cocina. Tiempo pasado, tiempo olvidado. ¿Y ahora qué? Paramos los insultos, paramos los maltratos. Cansada de humillaciones, cansada de violaciones. Nos veían poca cosa, ahora agárrense los pantalones que nos toca. Mujer, definición de inteligencia. Mujer, definición de fortaleza. Una lucha de igualdad y respeto. Fuimos negadas al entendimiento. Fuimos señaladas por adulterio. Esclavizadas en todo momento. Ahora somos guerreras a todo terreno. Guerreras unidas. Somos mentes activas. Guerreras unidas. Somos historia viva. Guerreras.
juventud, esperanza, escuela femenina, esencia, madre, hija, lucha, fuerza, mujeres de todo el planeta. Merecemos lo mejor, aquí nadie nos frena. Somos revolución, formaciones de vida, somos la creación. Somos valientes, independientes, trabajamos incansablemente. No es evidente que nada más somos las valientes. Cometemos errores, soportamos dolores, sanamos heridas, derrotamos temores. Nos caemos y nos levantamos con honores. Andamos desactivas, contando y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos castiga. Andamos es activa, contando y positiva. Mujeres en la lucha, aquí nadie nos obliga. Guerreras, unidas, somos mentes activas. Guerreras, unidas, somos historia viva.
Ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas du Venezuela, les mesures coercitives unilatérales, donc c'est le nom officiel qu'on donne aux sanctions, sont un des aspects les plus cruels d'une guerre économique contre le pays. Mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'à côté des sanctions, vous allez avoir la spéculation contre la monnaie, le trafic de billets de banque, la contrebande d'extraction, la dégradation artificielle de la note de risque pays, la spoliation de biens de la République bolivarienne du Venezuela. Donc, c'est vraiment un ensemble de mesures de guerre économique. Et je pèse mes mots, hein, je parle bien de guerre économique puisqu'il y a des morts et les sanctions sont la partie évidemment la plus cruelle. Alors, l'architecture de ces sanctions a été établie aux États-Unis en décembre 2014. C'est le Congrès des États-Unis qui a voté une loi qui était l'architecture législative dans laquelle pouvaient s'insérer les sanctions contre le Venezuela. Et puis, quelques mois après, en mars 2015, il y a eu le fameux décret Obama, donc, qui considérait que le Venezuela était une menace exceptionnelle contre la sécurité intérieure des États-Unis. Évidemment, c'est une grosse blague. Le décret Obama répondait au niveau de l'exécutif des États-Unis à la loi qui avait été votée 2 mois avant pour justement donner lieu à ces mesures coercitives unilatérales. Je rappelle, il y a quelques jours une interview de Joe Biden dans le journal colombien El Tiempo. Cette interview est disponible en français sur le site des Deux Rives, bien entendu, je dirais. Et Joe Biden rappelle dans cette interview, il dit « Lorsque j'étais vice-président, j'ai dirigé les efforts visant à imposer la première vague de sanctions contre le régime de Maduro. » Alors, je rappelle ça parce que on entend dire « Oui, mais les sanctions… » Alors, généralement, on n'en entend jamais parler. Mais quand on entend un petit peu parler dans les médias dominants, les sanctions auraient commencé tardivement en 2019. Je rappelle que Joe Biden était vice-président jusqu'en 2016. Donc, évidemment, les sanctions ont commencé avant. Quel est le but des mesures coercitives unilatérales ? L'objectif est d'asphyxier la population, de la martyriser, de lui déclarer la guerre afin qu'elle se retourne contre ses dirigeants élus. L'idée des sanctions, c'est que la population éjecte des gouvernants élus qui ne sont pas sur la ligne politique de Washington. Cette politique a un coût humain. Il y a eu un rapport élaboré par 2 économistes nord-américains, Mark Weisbrot et Jeffrey Sachs. Alors, Jeffrey Sachs, c'est pas un rouge, hein, c'est pas un castriste ou même un communiste. Je rappelle que Jeffrey Sachs avait été responsable des thérapies de choc dans l'Union soviétique post-chute du mur de Berlin et aussi en Amérique du Sud. Donc là, on parle d'économistes reconnus qui ne sympathisent pas avec le gouvernement du président Nicolas Maduro. Jeffrey Sachs et Mark Weisbrot ont établi qu'entre 2016 et 2018, les sanctions contre le Venezuela équivalent à 40 000 morts. 40 000 morts, donc, entre 2016 et 2018. Et les sanctions ont augmenté depuis. Donc, les sanctions se traduisent par des morts réelles. Alors, pour parler de ces mesures coercitives unilatérales, je crois que ceux qui en parlent le mieux, ce sont les membres de l'administration nord-américaine. Donc, on va les écouter. En commençant par une citation de William Brownfield. William Brownfield est un diplomate nord-américain, enfin, états-unien, qui a été ambassadeur au Venezuela et en Colombie. Le 12 octobre 2018, dans le média Voice of America, William Brownfield déclarait « La meilleure résolution est de précipiter l'effondrement du gouvernement vénézuélien, même si cela implique des mois et des années de souffrance pour les Vénézuéliens. » Bon, là, on voit bien quel est l'objectif visé. Je continue avec un autre ex-membre de l'administration Trump, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un faucon criminel, l'ancien responsable du Conseil national de sécurité, donc John Bolton, qui le 11 avril 2019, sur la chaîne Univision, déclarait « Ce que nous faisons au Venezuela, c'est comme lorsque Vador dans la guerre des étoiles étrangle lentement quelqu'un. » Bon, troisième petite citation pour vous donner un peu la signification et l'objectif de ces sanctions, c'est Thomas Shannon. Thomas Shannon a été vice-ministre des Affaires étrangères, il a même été donc secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères pendant un court instant durant l'administration Obama. Et dans le Financial Times du 7 juillet 2019, Thomas Shannon dit « Les sanctions contre le Venezuela sont comparables au bombardement des Alliés contre Dresde et Tokyo en 1945. » Là, ça doit vous toucher parce que vous savez ce que ça veut dire. Les bombardements contre Dresde, c'est 300 000 morts. Donc, ce n'est pas un éditorialiste rouge de Granma ou de la Iguana TV qui écrit ce genre de choses. Il s'agit des plus hauts responsables de l'administration nord-américaine. Alors, on va rentrer assez rapidement, assez brièvement. Je vous renvoie au texte que je vous ai cité, aux interviews pour essayer de développer le thème des sanctions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sanctions attaquent tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle, politique du pays, non ? On entend dire oui, mais enfin, tout n'est pas la faute des sanctions. Eh bien, si, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au Venezuela qui sont la conséquence pratique de l'application des sanctions, des mesures coercitives unilatérales. Parce que c'est une situation anormale. Et donc, toute pensée économique pour répondre aux attentes de la population doit se faire dans le cadre de cette anormalité. Ça affecte et recompose le lien social, ça détruit des familles, c'est une mesure criminelle, c'est une mesure de guerre. Si vous, par exemple, là, ceux qui m'écoutent, vous vouliez demain exporter 35 000 tonnes de blé au Venezuela, vous avez le blé, vous avez le cargo, vous pouvez le faire dès l'instant où vous allez arriver à Maiquetia, c'est-à-dire le port, le plus important port du Venezuela, et que la transaction va être opérationnelle. Vous allez être placé sur la liste des entreprises et des personnalités sanctionnées par le département du Trésor. Ce qui veut dire que votre bateau, il ne va plus être assuré parce que s'il continue d'être assuré par une compagnie d'assurance, la compagnie d'assurance va se retrouver sur la liste des sanctions et donc va perdre des clients. Votre bateau, vous en faites quoi ? Vous voulez revenir en France et l'amarrer au Havre ou à Marseille ? Vous ne pouvez pas, car si vous faites ça, le port du Havre et le port de Marseille seront mis sur la liste des sanctions. Il y a toute une batterie donc de mesures extraterritoriales qui empêchent le Venezuela de réaliser des importations, mais aussi de réaliser les exportations nécessaires pour obtenir les devises pour pouvoir importer. Alors, pour conclure, je voudrais quand même revenir sur un thème qui est comment un pays avec les plus grandes réserves de pétrole peut se retrouver à court d'essence. Eh bien, justement, c'est l'application des sanctions. Pour que ça soit pas trop difficile à comprendre pour des Français ou des Européens, je vais transformer un petit peu et je vais prendre le thème du vin. Imaginez, la France a de grands vignobles, de grands terrains agricoles qui produisent du raisin. Très bien. Seulement, si vous n'avez pas de cuve, si vous n'avez pas de broyeur, si vous n'avez pas de tout le matériel nécessaire pour distiller votre vin, eh bien, vous ne pourrez pas évidemment produire du vin. Alors, vous me direz, c'est pas grave, j'ai qu'à exporter le raisin. Non, vous n'avez pas le droit non plus. Donc, c'est-à-dire que dans un cas comme la France, par exemple, si la France était sous un blocus comparable au Venezuela, on se retrouverait avec des tonnes et des tonnes de raisins à ne pas savoir quoi en faire. Donc, évidemment, ça affecterait nos terres agricoles, ça déstructurerait certaines relations sociales, ça déstructurerait notre économie. Et évidemment, la France a d'autres industries. Le Venezuela est très centré sur le pétrole. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple-là. Les sanctions sont aussi une attaque contre la démocratie vénézuélienne. Puisque le but des sanctions, c'est que les gens aillent voter contre la révolution bolivarienne. Donc déjà, le but de ces sanctions est de dénaturer l'essence même de la démocratie vénézuélienne.
Directamente desde el aposento, sí, sí, suena, suena, ya, yeah. Don Caracas, Venezuela, yeah. Dice, 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 sí, sí, ya, yeah. Empatía algo desadaptada, fuera de los patrones, me caen mal los bocones, huevones, no escucho mucho rap, solo escucho lo que me interesa, alimento mi sapiencia, escarbando más de esta ciencia, callada, sigilosa, apartada de mil cosas pegajosas, odio la vida rosa, utópica, ridícula, sin dirección, my son suena fuera en las aceras, callejuelas, traspasando las fronteras, Ron Caracas, Venezuela, se cuela en tu siena, quita esa carita mariquita, no les creo, suenan feo, no apoyo lo que combato, garabatos, mucho flow abstracto, con metáforas rebuscadas, basura, matando el ego, el miedo, como una psicópata, les como abstract pa' mejorar mi estado mental, espiritual, pa' luego elevar y levitar, fuera de gas de falsas glorias, quitando tómbolas estúpidas, horas en mi cuarto a solas, paso bajo los subterráneos de mi cráneo, salgo, pateando calle, buscando el money, me cago en las instituciones y en tus canciones de criminales, ya, yeah. Tantos intelectuales, sí. Faltos de identidad, ya, yeah. Echen pa' allá que no vinimos a jugar, menos aparentar lo que no somos, porque somos el proletario, el odio contra el empresario, sonido unísono, único, maricón, no busco aceptación en tantos círculos, no hay vínculos pa' vender mi culo, y se los juro que vine a revolucionar la industria, deja la angustia, mi mente firme, la tuya tosca, percibe traición por falta de convicción, vendrán a ti los de derecha, es un cha-cha-cha pa' celebrar con champagne, luego pa' can, te sacarán la checa por no seguir las líneas de su discográfica. Les pintamos una paloma, toma, dejándole hematomas, resucitando mentes en coma. Te crees libre, siguiendo estirpe, más moda, más plástico, más drogas, más coda, más putas con sus siliconas y gente con espíritu artificial. Más ojos viendo el MTV, copiando ser un símil, luciendo como imbéciles. No ves que te venden el hip hop como no es, masacrando el puto cliché que te meten en la mente, güey. Desde este lado, no copiamos prototipos típicos de esos gusanos. Y si somos groseros, es porque el extranjero le enseñó eso primero a mis paisanos. Somos indios, no gringos, hijo. Y que les quede claro que si grabo en mis chaviados, es porque productores serios han faltado. Yo no jalo bolas, no me jodan, chao, chao, chao.